Merci, Père Céleste, par ton Fils de nous avoir invités à ce repas, d'avoir institué par ta sagesse quelque chose qu'on voit avec les yeux, qui sont vraiment pas comparables à la profondeur de la vérité de qu'est-ce que Jésus a passé pour nous en allant jusqu'à la croix. Il a souffert. Puis, Seigneur, comme ça a été mentionné, il n'y a pas longtemps. D'un côté, Seigneur, on peut comprendre peut-être un peu les souffrances physiques, parce qu'on connaît beaucoup d'entre nous avoir souffert dans nos corps. Peut-être pas au point où ce que tu as souffert, c'est sûr. Mais qu'est-ce qu'on ne peut pas comprendre? C'est la souffrance d'être Dieu sans péché, de porter le péché, mon péché, à la croix, et d'entendre la voix d'agonie qui crie, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Seigneur, on va avoir l'éternité pour y réfléchir, puis le louer, l'agneau de Dieu. Merci Seigneur de nous avoir accompagnés. Que ton nom soit béni, loué. Et Seigneur, aide-nous dans le partage de l'enseignement ce matin. Dans le beau nom du Seigneur Jésus. Amen. Avant d'envoyer nos enfants à leur classe, on va juste partager quelques annonces. Premièrement, vous voyez que je porte quelque chose d'un peu spécial un matin. C'est que notre frère Jonathan, il a eu à cœur de faire les enregistrements des messages. Puis quand on utilisait juste le micro avec son téléphone à distance, c'était pas tellement clair. Donc, on joue un peu avec la technologie pour voir si on peut améliorer un peu le son. Mais les messages des semaines déjà passées, il y a presque un mois et demi, là, ils sont déjà en ligne. C'est qu'on faisait un test, on avait quelques petits bugs à travailler dessus, mais si vous voulez trouver les messages, si vous avez lu vos courriels, c'est que sur la page web du site de l'Église, acnddn.ca, si vous cliquez sur l'onglet Enseignement, vous allez jusqu'au bas de la page, vous allez voir trois petites étoiles, trois petits astérisques. Tu cliques sur les astérisques, puis ça va ouvrir une page privée que vous pouvez avoir accès à tous les messages. Et même un peu plus que ça, même les enfants qui chantent en avant ici. Nos chants, nos louanges. Donc, c'est une des raisons qu'on l'a mis sur une page un peu plus privée, moins publique. C'est qu'on veut quand même respecter le droit de la vie privée des personnes qui sont dans les vidéos. Et puis, c'est pour vous. Surtout, on pense à vous, nos profs d'école du dimanche. Mais là, vous allez avoir les messages et puis avoir la chance de les écouter en semaine. Ou des fois, si on est pas capable d'être ici le dimanche, ben vous avez accès maintenant. Surtout quand on fait une série, des fois, si c'est une série comme Paul nous a amené une série de, je pense, six messages sur la parole, ben si vous avez manqué le numéro 3, c'est comme il y a un trou. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez maintenant avoir accès sur le site web. Et on remercie Jonathan pour tes efforts pour nous bénir avec ça. Demain matin, il y a une réunion des anciens. Vous allez dire, vous vous rencontrez toutes les semaines? Non, c'est que la semaine passée, il y a eu un empêchement. Et puis, on se rencontre demain, mais on vous remercie toujours pour vos prières à cet égard-là, qu'on prenne de bonnes décisions et puis que on soit dans la volonté du Seigneur pour l'Église locale. Souper de Noël, 20 décembre, puis j'ai vu les listes sont sur le babillard, j'ai vu plein de monde qui signait pour apporter quelque chose, mais s'il y a des trous sur la liste du menu, ben si vous n'avez pas encore mis votre nom et vous avez à cœur de participer, ben vous pouvez le faire. Ça, c'est le 20 décembre à 4 heures. Ça, c'est pour les préparatifs. On va souper un peu plus tard que 4 heures, c'est sûr. La liste pour le calendrier de la bonne semence sont sur le comptoir. Et en temps normal, on aurait sorti la liste au mois de novembre, puis on n'aurait pas été pressé pour, tu sais, vous courir après vous pour vos calendriers. Mais finalement, C'est qu'il y a quelqu'un qui nous a rappelé dimanche dernier, hey, les calendriers de la bonne semaine, hey, ping, la lumière s'allume. Bon, la liste est là. Faut vous signer aujourd'hui parce que la commande va sortir demain. Donc, si vous pouvez aussi, si vous oubliez d'écrire sur la liste, vous en voulez absolument un, là, ben, textez-moi, envoyez-moi un courriel, appelez-moi sur le téléphone. Il y a trois formats, ils sont tous expliqués sur la feuille. Il y a les calendriers bloc-notes là, qu'on est habitués, là, où est-ce qu'on déchire une page à tous les jours. Il y a aussi une version un petit peu comme porte dans tes poches, là, c'est pas tellement gros, dans ta sacoche. Et puis, il y en a un qui est vraiment un petit livre relié, qu'on déchire pas les pages. Ben, on pourrait, mais ce serait moins facile. Et puis, anyway, c'est là sur le comptoir. Puis, on veut placer la commande, faire sûr qu'on les a avant le 1er janvier. Bon, j'ai ici un certificat pour cours biblique par correspondance Emmaüs à remettre à Muriel Beaulieu. C'est qui Muriel Beaulieu? L'Épître aux Hébreux, ça fait longtemps, depuis le 25 juin, qu'on a oublié de lui remettre. Rien de temps. Ah, faut. Ben oui, mais. Ah oh non. Le passé attaché à un fil. J'en ai un autre ici pour Jeanne Robitaille, mais elle n'est pas là ce matin. Donc, merci à ceux qui continuent à connaître mieux Dieu par les cours Emmaüs. Et puis, je sais qu'en mi-semaine, il y a le petit groupe à relais, c'est ça, on fait un cours Emmaüs, nous autres aussi. Bon, je pense que c'est tout que j'avais. Ah, j'avais juste une dernière chose. À la fin, après l'enseignement, puis après que les profs d'école du dimanche sont revenus dans la salle, on va rester un petit 5 minutes. C'est parce que je ne veux pas faire du business du conseil d'administration pendant le culte. So, après le culte, après qu'on a eu un enseignement, puis on a fini notre réunion ensemble, on prend un petit 5 minutes. On a quand même une recommandation de la part du conseil d'administration à vous faire savoir et puis de savoir votre pensée là-dessus. Et puis, donc, on vous demande de rester un petit 5 minutes après. S'il n'y a pas d'autre chose, est-ce que j'ai oublié quelque chose, Carmen? Oh. Puis merci à nos sœurs, hein, qui ont bien préparé la salle. C'est vraiment beau. Bon, l'école du dimanche, allez. Soyez gentils pour vos profs. Alors, bonjour. Et que le Seigneur bénisse pour nous ce matin sa parole. On est entré au mois de décembre et souvent, les semaines juste avant Noël, on prend un temps pour rentrer dans l'accueil de l'enfant Jésus, de nous rappeler des événements de sa venue. Et puis, on appelle cette période de l'année l'Avent. Mais ça fait du sens, ça vient avant Noël, c'est l'avant et l'arrivée de notre Seigneur. Il y a quelques semaines, j'avais partagé avec vous dans le contexte de l'étude sur la parole de Dieu, la bienheureuse attente que l'Église attend avec patience l'espérance de chacun de nous qui connaissent le Seigneur, son retour. Il faut être patient. Déjà 2000 ans là, qui s'est passé là, presque. Depuis que Paul nous donne dans la lettre aux Thessaloniciens cette vérité qu'à un moment donné, dans un clin d'œil, le Seigneur arrive, il vient prendre avec lui l'Église. Puis on attend. On attend avec patience. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais des fois, je ne suis pas patient. J'aime pas ça attendre. C'est surtout quand tu te présentes dans la salle d'urgence, là. Ouf, ouais, on l'entend, hein? On le sait qu'est-ce que c'est, on l'a tout connu. Je me rappelle une fois, Muriel, beaucoup plus patiente que moi, elle arrive à Ville-Marie et dans la chambre d'attente de 9 h le matin jusqu'à 10 h le soir. Et elle a resté jusqu'à la fin. Elle a vu quelqu'un. Finalement, ils l'ont rentrée à l'hôpital pour le soir. Elle était patiente. Moi, je n'aurais pas été aussi patient. Ce matin, j'aimerais qu'on réfléchisse justement à l'attente d'Israël pour son Messie. J'ai intitulé le message « Quand le ciel se tait ». Israël était le peuple choisi de Dieu, un peuple qu'une certaine alliance avait été faite avec l'Éternel. Et puis l'Éternel avait une relation avec ce peuple. Il les avait bénis. Il les a fait sortir d'Égypte, hein, de l'esclavage. Il a fait de ce peuple-là sa nation. Pour un temps, ils ont été fidèles, d'autres temps, moins fidèles. Et puis, quand on lit l'Ancien Testament, là, c'est comme un cycle vicieux où ce que Israël s'était rétabli dans sa relation, puis d'autres fois, il y tombait dans leur relation. Ben, je ne peux pas les critiquer parce que c'est ma vie, moi aussi. Il y a des moments dans ma vie où ce que j'ai marché très étroitement avec le Seigneur dans sa volonté, voulant faire qu'est-ce que le Seigneur voulait que je fasse pour lui. Il y a des moments dans ma vie où ce que j'ai complètement ignoré qu'est-ce que le Seigneur voulait pour moi, puis j'ai dit au Seigneur, écoute, c'est moi le boss. C'est l'histoire d'Israël. Israël avait été choyé avec les juges, avec les patriarches, avec les prophètes, avec la prêtrise, un témoignage continu qu'ils étaient le peuple de Dieu. Et à un moment donné, silence. J'aimerais qu'on considère le verset de Galates chapitre 4 au verset 4 où ce qu'on lit ceci. Mais lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Au temps, lorsqu'ils ont été accomplis, donc Dieu avait un horaire. Il savait le moment choisi où ce que le Fils de Dieu entre chez nous, portant sur lui l'humanité, le Messie promis. Mais c'était après 400 ans de silence. Israël connaissait qu'est-ce que c'était d'attendre, d'être patient. C'était pas juste quelques jours, il fallait qu'il soit patient. C'était pas quelques mois non plus. Mais 400 ans de silence entre le dernier prophète, Malachie, qui vient clôturer l'Ancien Testament, et l'ouverture des premières paroles de l'Évangile de Matthieu, où ce qui a fut promis, celui qui viendrait crier dans le désert, Jean-Baptiste. Il y a 400 ans de silence. Aucun prophète. Il n'y en avait pas un qui parlait pour Dieu. C'est ça la définition d'un prophète. C'est quelqu'un qui parlait pour l'Éternel. Souvent, c'était des avertissements. Surtout quand Israël savait tourner son dos, qui se sont rebellés, qui se sont tournés vers les idoles. Dieu envoie un prophète. Le prophète, il les appelle à retourner à l'Éternel. Mais il n'y en avait aucun. 400 ans. Aucune vision, aucun rêve. Aucun message nouveau. Dans une seconde, on va regarder c'était quoi le dernier message. Aucune visitation. Il n'y avait pas d'anges qui sont apparus. Juste le silence. Ouf, c'est dur le silence, hein? Dans la vie du couple, Y a-t-il quelque chose qui fait plus de peine que le silence? Des fois, on peut avoir un petit accroc, mésentente, et puis on boude, on garde le silence. Ça vient te chercher. Hein? C'est dur de garder un silence. Des fois, peut-être une bonne chose de garder un silence pour un certain temps, sinon on dit des bêtises, puis on rend la chose pire. Mais un silence, c'est quand même inconfortable dans une relation. Israël avait une relation avec l'Éternel et maintenant un silence. Mais avec ce silence, il y avait aussi une promesse. Parce que les derniers mots du prophète Malachi nous donnent une promesse. Voici Malachi chapitre 4. Les versets 4 à 6, c'est les trois derniers versets de l'Ancien Testament. « Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël, des préceptes et des ordonnances. » Le commandement de suivre l'Éternel sous l'alliance que Dieu avait fait avec eux. Ils avaient donné la loi. « Et voici, je vous enverrai, Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. La promesse, je vous enverrai. Élie le prophète. » Une promesse donnée à Israël. C'est les dernières paroles comme promesse. Il y avait d'autres paroles aussi, mais ce n'était pas une promesse. C'était plutôt un avertissement. De peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. C'est les dernières paroles avant 400 ans de silence. Je vous enverrai le prophète Élie. Mais gardez-vous de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Puis là, le silence. Donc ce matin, j'aimerais qu'on retourne à cette période de 400 ans de silence, cette longue nuit avant la venue du Messie, afin qu'on puisse comprendre un peu qu'est-ce que Israël a sûrement ressenti avec espoir d'un jour connaître le temps parfait de Dieu. De la même façon que nous, comme Église, on attend le temps parfait de Dieu pour son retour. Donc, on a 400 ans de silence. Et l'Ancien Testament se termine avec une interdiction. Mais vous vous rappelez le premier mot de l'Évangile de Matthieu? Dans le premier verset du chapitre 1 de l'Évangile de Matthieu, c'est écrit « Jésus, celui qui sauve ». Donc, l'Ancien Testament se termine avec un avertissement et la promesse d'un prophète. Et le Nouveau Testament ouvre avec Jésus, celui qui sauve. C'est un beau contraste. Le besoin du Messie, c'était clair. Surtout après 400 ans, là. Et il y a des générations entières qui n'ont rien entendu de Dieu. Ils sont nés, ils ont grandi, ils sont morts. La prochaine génération, ils sont nés, ils ont grandi, ils sont morts. Combien de générations dans une période de 400 ans? Sans avoir entendu que ce soit de l'Éternel C'est sûr que dans ces générations-là, avec le temps, beaucoup auraient oublié l'Éternel. Pour ceux qui étaient fidèles, peut-être dans leur génération et dans la génération de leurs enfants, ils avaient une soif pour le retour du Messie. Ce n'est pas la même chose aujourd'hui. On attend le retour du Seigneur. Ça fait longtemps qu'on l'attend, là. Ça fait 2000 ans. La promesse est devenue réalité avec l'arrivée de Jésus qu'on fête à Noël. Si c'est vrai que ça s'est accompli dans l'Ancien, mais c'est sûr que ça va s'accomplir dans le nouveau. Alors, qu'est-ce qui se passait pendant les 400 ans? Des fois, on parle des livres de notre Bible, puis on se demande, mais pourquoi nos Bibles ont peut-être de différents livres que ceux des orthodoxes ou ceux des catholiques? C'est qu'il y a des écrits apocryphes ou deutéronocanoniques, veut dire pas nécessairement inspirés de Dieu, mais peut-être utiles, donc ils les gardent dans leur canon. Et il y en a un qui va nous donner quelques soupçons et quelques idées de quelque chose qui se passait un peu dans ces temps-là. Premièrement, avec le prophète Malachie, là, on vient clôturer l'Ancien Testament. Les Babyloniens, là, c'est déjà un empire, là, c'est fini. Daniel nous avait dit que le prochain serait les Mèdes et les Perses, mais on est sous une domination perse pendant cette période de silence, mais pas pour toute cette période-là, parce que éventuellement viennent les Romains aussi plus tard. Et ça explique pourquoi que les Romains y étaient au pouvoir le temps que Christ est né. Et dans tout l'Évangile, on voit la vie de Jésus, mais c'est dans un contexte d'une occupation romaine. Donc, il y avait une domination. Donc, premièrement, Israël vivait sous un pouvoir étranger. Ils n'étaient pas maîtres chez eux. Pour certains, ça les aurait donné le goût que le Messie arrive. Peut-être même si c'était juste pour des raisons politiques. Puis ça explique un peu aussi le contexte du Nouveau Testament. Quand on voit chez les Juifs à l'époque, dans la vie de Jésus, qu'ils cherchaient en Jésus d'être leur roi, celui, le premier, qui aurait pu se débarrasser des Romains, puis réétablir la gloire d'Israël comme une nation indépendante. C'est à venir. C'est à venir. Et ce n'était pas pour le temps de Jésus. Jésus est venu humble, pas comme un roi. Et puis, il n'est pas venu pour renverser la situation politique de son époque. Il l'a renversé spirituellement, c'est sûr. Mais il ne l'a pas renversé politiquement. Mais on est sous un pouvoir étranger, puis ça pourrait donner à certains le goût que le Messie vienne. Maintenant, on a l'installation de l'influence grecque. C'est l'empire qui suit les Mèdes et les Perses. C'était les Grecs, avec Alexandre le Grand et puis d'autres. Et puis, les Grecs avaient quand même une grande influence dans leur empire. Le grec devient la langue officielle de toute la population presque européenne et Moyen-Orient, Nord-Afrique. C'est un langage connu par beaucoup. Elle pénétrait partout. Sa langue, sa philosophie, mais aussi son paganisme. C'était un peuple qui adorait des idoles. Donc, pour Israël, sous ces influences-là, comment s'attacher à l'Éternel, celui qui était silencieux pour 400 ans, il nous parle plus. Mais peut-être on va tourner aux idoles des Grecs, peut-être ils vont nous parler. Une sécularisation à l'époque. Il semble que L'histoire se répète. Ça arrive dans nos jours aussi. La révolte des Maccabées. Si vous avez vu le film Masada, on se rappelle qu'il y avait quand même des Juifs réfugiés qui ont fait la guerre contre les Romains. Et puis, pour un temps, il semble qu'il y avait possibilité qu'ils soient les gagnants. Ils se sont rebellés contre Rome. Ça plie beaucoup, beaucoup, beaucoup d'années. Et puis, finalement, les Romains, ils se sont construits justement un chemin pour aller jusqu'en haut de la terrasse où ils étaient sur un point élevé pour finalement aller faire la guerre contre les Juifs qui étaient là. Puis, ces Juifs-là sont morts. Fini la rébellion. Mais la rébellion, il était encore dans le cœur des Juifs comme nation. On se rappelle de Barabbas, celui que à la crucifixion, Ponce Pilate aurait voulu laisser un partir, puis il aurait voulu que ce soit le Seigneur qui soit mis en liberté, puis le peuple dit « Non, non, donnez-nous Barabbas! » Bien, il en était un de ces rebelles-là, un de ces zélotes qui aurait voulu voir changer la situation politique à l'époque. Donc, la révolte des Maccabées, à ce moment-là, ça donne quand même une courte période d'indépendance où ce que l'espérance d'un roi messianique était comme revenue. Hein? Ça fait partie de ce fameux cercle vicieux de marcher avec l'Éternel et puis marcher vers les idoles, marcher vers l'Éternel. Et c'est à ce moment-là, on était comme une grande fierté nationale. On avait espoir de battre les Romains et puis finalement ça a échoué. Mais ça, c'est une des choses qui arrivait dans cette période-là. La domination romaine, on le comprend. Les impôts qui étaient lourds, l'oppression, les soldats partout dans les rues. Les gens n'aimaient pas ça. Le peuple soupirait. Jusqu'à quand, Seigneur? Hein? Jusqu'à quand? Il était conscient que dans les Écritures, il y avait une promesse. Même si c'est les dernières phrases de l'Ancien Testament, il y avait une promesse. Il va en avoir un autre prophète, un prophète Élie. On va apprendre que Jésus va nous dire, bien, c'était Jean-Baptiste, le prophète Élie, celui qui était promis. On n'avait eu aucun prophète depuis Malachie. Donc, il y a des générations entières, comme j'ai mentionné tantôt, là, où ils n'ont rien connu de qu'est-ce que c'était d'avoir une relation avec l'Éternel. Et à ce moment-là, le temple, Dieu, il occupait plus le temple. Il n'était plus là. Son esprit avait sorti du temple parce que son peuple l'avait mis de côté. Ils ont été envoyés en exil. Ils ont connu des années de difficultés. Mais plus important d'expliquer qu'est-ce qui se passait à l'époque, c'est qu'est-ce que ça produit. Parce qu'il y a des relations à qu'est-ce que ça produit dans leur temps, à qu'est-ce que ça produit dans notre temps. Et la raison, comme Église, on cherche, dans la période de l'Avent, de nous rapprocher de Dieu parce que la naissance de Christ, c'est notre espoir, parce que c'est lui le Sauveur promis. Nous, on regarde l'histoire par en arrière, on voit ça, c'est le passé. Mais pour ceux qui anticipaient, là, qu'est-ce que ça a fait en eux? Mais ça les a donné une fin profonde pour la parole. Parce qu'ils voulaient s'accrocher sur les promesses de Dieu données à Israël, bien, ils étaient conscients en lisant les prophètes, comme nous on peut les lire aujourd'hui, de tout ce qui avait été promis. La différence pour nous, c'est qu'on voit ça comme des prophéties qui ont été répondues, qui ont été réalisées. Mais pour eux, c'était des choses à venir. De la même façon que nous, notre prophétie de l'enlèvement de l'Église, c'est notre espérance, puis on attend que ça arrive. Mais pour eux, la première venue du Messie, ils attendaient que ça arrive. Alors, ça leur donnait une fin profonde pour la parole de Dieu, parce que dans la parole de Dieu, il y a plein de promesses sur lesquelles ce peuple-là pouvait se tiendre. Puis il y a toujours eu des fidèles en Israël pendant ces 400 ans-là. Là, c'est pas comme... Peut-être, oui, la nation en général va laisser de côté l'Éternel. mais il y avait toujours des fidèles. On le sait parce qu'à l'ouverture du Nouveau Testament, on rencontre de ceux qui attendaient cette belle promesse. On en parle dans une minute. Une fois privé des prophètes, bien, le peuple se tenait à l'écriture de ce que les prophètes anciens avaient à dire. Et c'est sûr, il y avait un désir de délivrance, là, parce que c'était l'occupation. Que ce soit les Perses, que ce soit les Grecs, que ce soit les Romains, c'est une histoire d'un empire après un autre qui nous place sous un joug. Sous Rome, l'attente du Messie atteignit son sommet. C'est rendu le pire des pires. Puis finalement, il y a eu un constat qui était très douloureux. Les rois humains, là, les empires, tout ce qu'ils auraient voulu nous promettre, ça ne sauve pas. Un empire qui s'établit, oui, au début, que ce soit par la guerre ou que ce soit peut-être un transfert de responsabilité sans avoir passé par la guerre toujours, là. Mais éventuellement, là, les conquérants, ils vont essayer de faire que le peuple soit en paix, que le peuple soit donné une meilleure vie, afin qu'il ne se rébelle pas contre l'Empire. Mais ça ne se réalisait pas dans le temps d'Israël. Tout ce qu'ils voyaient, eux, c'est les impôts à payer, les soldats dans les rues qui contrôlaient la population. Et puis, même si les Romains ont donné aux Juifs le droit de leur culte, il ne fallait pas le placer plus haut que celui des Romains. Donc, c'était comme un peu ce qu'on a vécu en Nouvelle-France. Hein? Les Britanniques ont vaincu, mais ils ont donné quand même la permission aux Français de continuer dans leur catholicisme, de continuer dans leur culte. Ils avaient le droit de religion, etc. Là. Mais ce n'est pas parce que c'était vraiment ce qu'ils voulaient faire, mais ils veulent garder la paix. C'est un peu ce qu'Israël vivait. Tous les espoirs donc politiques avaient été échoués. Alors, il y a une concentration maintenant à réfléchir à la venue du Messie. C'est sûr que ce n'est pas tout le monde. Parce que Jean-Baptiste, il est venu crier dans le désert. Est-ce qu'il y avait des disciples? Ben oui. Est-ce qu'il y en a eu plusieurs qui ont été baptisés? Un baptême de repentance? Bien oui, il y en avait eu beaucoup. Parce que ces gens-là avaient une soif de la venue du Messie. Finalement, un prophète qui parle pour Dieu, la promesse du Messie, ça s'en vient. Et puis, ils se repentaient parce que c'était qu'est-ce qu'ils espéraient, c'est qu'est-ce qu'ils attendaient. Alors, plus que jamais, on attendait celui qui briserait l'oppression. C'est sûr, il faut être honnête avec ça. Ils voulaient voir les Romains sortis de là. Mais ils voudraient aussi avoir le pardon de leurs péchés. Ils se repentaient. C'est la raison qu'ils prenaient le baptême de repentance. Ils se préparaient pour la venue de celui que Jean-Baptiste dit qui n'était pas digne de même délasser ses souliers, les sandales du Seigneur. Il ne se voyait pas digne parce que lui, il était l'agneau de Dieu qui enlèverait le péché du monde. Il va rétablir Israël. Il apporterait le royaume de Dieu. Et donc, il y a une préparation des cœurs au salut dans cette époque-là, surtout à la fin de cette époque de 400 ans. Il y a une préparation des cœurs et le silence créa justement cette soif pour l'eau vive. C'est un peu qu'est-ce qu'on vit comme Église. On est content de notre culte, on est content d'être ensemble, on est content pour plein de choses que vivre la vie en Église, hein, c'est riche, c'est beau, la communion fraternelle est précieuse, on est bien, mais combien Bien serons-nous lorsque la trompette sonnera puis le Seigneur viendra nous chercher. Là, on va être capable de dire, on rentre chez nous, puis on va rentrer ensemble. Il ne faut pas être trop confortable dans notre situation. En étant trop confortable dans notre situation, on a une tendance de voir notre vie se sécuraliser aussi. Et on est dans justement une époque où, ici au Québec, on contemple même des projets de loi qui voudraient voir le Québec encore plus séculaire qu'elle est aujourd'hui. Puis je me demande, peux-tu être plus séculaire qu'elle est aujourd'hui? Il y a un beau contraste pour nous à contempler comme Église. Donc, Israël vivait quelque chose, mais on peut sympathiser avec eux. On vit un peu la même chose. Et c'est pourquoi que nos cœurs sont portés à vouloir fêter Noël. Tu sais, de la bonne façon. Tu sais, il y a des gens qui disent, bon, on fête Noël, mais si c'est juste des cadeaux puis des arbres de Noël puis des soupers de Noël, c'est quand même assez stérile. Aux chrétiens qui attendent, tu sais, on sait que le Seigneur, il ne vient pas là, le 25 décembre. Là. Il ne vient pas, il est déjà venu. Ce n'est pas une anticipation, mais c'est un temps de se rappeler. C'est un temps de célébrer, de louer. Et c'est aussi un moment dans l'année où ce que les gens sont peut-être un peu plus tendres à entendre une parole qui leur parle de Dieu. Et nous, on a à saisir cette occasion-là qu'on a de parler à d'autres du Seigneur. Parce que les gens te parlent, qu'est-ce que tu fais pour les fêtes cette année? Eux, ils s'attendent que tu vas dire, on va aller souper chez la belle-mère. Non, parlez-leur de l'attente dans votre famille, dans votre vie personnelle, de célébrer la venue de ton précieux Seigneur, de se souvenir de ça. Ramène-leur au Seigneur. Il va y avoir un film qui sera présenté à Guérin, le roi des rois. C'est un bande animée pour les enfants. Et puis, l'Église proposait que ce serait un bon moyen d'évangéliser puis de faire connaître aux enfants de la région la venue du Seigneur. Puis c'est un petit bonhomme, puis on sait que les enfants aiment les petits bonhommes, puis ils vont venir festoyer, ils vont se faire gâter. Et le comité où est-ce que l'Église a fallu que les responsables se présentent à la municipalité, puis la direction de qui sont ceux qui sont responsables pour les loisirs dans le village, ils ont présenté, mais ils n'ont pas dit on va leur montrer un bon film, on va leur donner du popcorn, puis une bande dessinée. Non, c'est plus que ça. C'est l'Église de Notre-Dame-du-Nord qui veut apporter aux enfants la vraie histoire de Noël, que Jésus est né. L'histoire de Jésus. Et on est content, le Seigneur souverain a mis dans le cœur de cette dame-là qui est responsable de dire « Oui, tu as bien raison, les enfants ne connaissent pas Jésus, allez-y de l'avant. Montrez votre film, partagez l'Évangile. » On vit dans un monde où la réponse aurait pu être non. Mais on savait que devant le Seigneur, pour être intègre, on dit la vérité. On montre un film parle de Jésus, avec le message de Jésus et Noël, qu'est-ce que ça veut dire pour nous, chrétiens? C'était le temps parfait de Dieu. C'est ça qu'on a vu dans notre verset de Galates 4:4, hein? Au moment approprié, au moment accompli, Dieu envoyait son Fils. Il préparait quoi? Bien, dans ces 400 ans-là, là, des fois, il faut penser à la logistique de qu'est-ce que c'est de faire venir un Messie. Et on sait que Dieu il est au-dessus de toutes choses. Là. Mais Dieu, dans sa sagesse, a utilisé la situation humaine pour être l'architecte d'apporter son Fils à un moment où ce que c'était propice pour lancer cette révolution qui serait le christianisme. Premièrement, les gens parlaient la même langue, parce que l'influence des Grecs sur la région était tellement répandue que la plupart des gens avaient une connaissance du grec. Donc, si on veut évangéliser, si on veut lancer une révolution, mais il faut que les gens soient capables de se parler. Notre Bible, là, le Nouveau Testament, ça n'a pas été écrit en français, hein? Ça a été écrit en grec. C'était la langue de l'époque. Donc, c'est ça que Dieu préparait. Puis Daniel l'avait vu dans son temps. Il avait prédit qu'un jour, que ce serait les Grecs qui seraient l'empire dominant. Et c'est pendant cet empire-là où ce que les Grecs ont introduit une langue commune. C'est sûr que les Romains, eux, ils ont apporté le latin. C'est venu un peu après. Mais au moins, parmi les instruits, parmi la population en général, il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui parlaient la même langue. Et c'était nécessaire pour l'Évangile. Les routes des Romains, là, hein, il était fameux pour bâtir des routes qui reliaient les villes, les villages, etc. Il y avait un système de transport. Mais c'est utile, là, si tu es missionnaire, puis faut que tu te rends pour voyager un peu partout, que ce soit par navire, que ce soit par, tu sais, les routes qui ont été bâties dans ce temps-là. C'était juste pratique. Je ne dis pas que c'est la raison que le Seigneur est venu dans l'époque des Romains, parce qu'il y avait des chemins. Mais ça nuisait pas partout. Là, je ne dis pas ça de façon catégorique, là, ça, c'est la raison, mais non. Mais c'est juste comme, c'est pas une coïncidence. Hein? Dieu sait qu'est-ce qu'il fait. À l'époque, parce que le culte des Juifs qui était principalement au temple, maintenant est transféré à cause de leur dispersion dans des synagogues. Mais au lieu d'aller à Jérusalem dans le temple pour entendre la parole de Dieu, mais la parole de Dieu y était partout, dans tous les villages. Les rabbins, eux, ils étaient dispersés partout dans le pays, dans les synagogues. On faisait un culte, on lisait la parole. Ça préparait le cœur des gens. Les gens pouvaient y être à un culte pour entendre la parole. Ils avaient une faim spirituelle dans toute la nation. C'est comme si c'était devenu à son apogée. Là, les gens avaient soif de cette délivrance. Et puis, une fois que Jean-Baptiste tombe sur la scène, les gens sont prêts. Et puis, ils se feront baptiser par milliers. Combien les foules ont suivi le Seigneur Jésus-Christ? C'était un peuple qui avait soif pour un changement et une relation avec Dieu. Dieu, il n'était pas vraiment silencieux pendant ces 400 ans-là. Il travaillait dans l'arrière-plan. C'est pas comme Dieu les punissait pour dire, écoute, il y avait un aspect, peut-être, de jugement. Il y avait eu un avertissement aussi que ça pourrait être pire, mais il y avait la promesse d'un prophète que Dieu reparlerait à son peuple et il l'a fait. Dieu a arrangé l'histoire. Donc, il ouvre le rideau justement sur le nouveau. C'est la fin du silence. Merci Seigneur. Dans cette époque, c'est là où ce qu'on voit combien on restait fidèle. Un ange apparaît à Zacharie. Zacharie était fidèle. Il était serviteur de Dieu. Il attendait cette venue. On sait aussi que l'ange Gabriel annonce que le précurseur, Élie le prophète, viendrait. Il serait né, ça serait Jean-Baptiste. Ensuite, Gabriel va visiter Marie, il annonce qu'elle va porter l'enfant Jésus. Puis ça ne sera pas ordinaire, ça sera un miracle de la façon qu'elle va elle va le porter. On voit les anges qui viennent auprès des bergers. On voit l'Esprit Saint qui parle à Siméon et Anne, qu'on voit dans l'évangile de Luc. Il y avait des gens qui attendaient, puis dans leur vie, ont vu réaliser la promesse de Dieu. Hey, étais-tu content ou quoi? Le silence avait éclaté. Le temps de la promesse était venu. Luc 2, 11 nous dit, « Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. » Les cieux ont éclaté de louange, hein, se rappellent devant les bergers. Les anges qui arrivent, puis ils chantent un cantique glorieux. Ces bergers-là, ils l'ont écouté, ils ont trouvé ça tellement beau. Puis ils se sont rendus pour voir le Messie qui était né. Alors, qu'est-ce que ça nous enseigne aujourd'hui? J'aimerais terminer avec ça. Qu'est-ce que ça a pour nous comme enseignement pour nous? Ces 400 ans de patience, de silence, où ce que Dieu, dans l'arrière-plan, il travaillait. Il préparait les choses. Il était sûr et certain, sa promesse. Mais qu'est-ce que le Seigneur fait dans le temps de silence pour nous par rapport à sa venue? Jésus a dit, « Je m'en vais vous préparer une place. » Mais sa promesse est sûre et certaine, il va revenir. On va partir d'ici, ensemble, pour être auprès du Seigneur. Donc, l'attente, là, la patience, ça fait partie de notre foi. Si vous êtes comme moi, là, des fois, on aime des choses là, que, ah oui, instantané, on veut que ça arrive tout de suite. Je dois vous avouer, il y avait eu des moments où, que, pendant la reconstruction de la maison, j'étais peut-être pas aussi patient que j'aurais pu l'être. On était quand même bien, c'était pas qu'on n'était pas bien, mais on était un peu impatient. Comment ça, il n'y a rien qui se passe entre le mois de mars et le mois de mai. Ils ont toutes défaites, qu'est-ce qui était brûlé, puis là, après ça, ben, il n'y a pas grand-chose qui s'est passé pour bien longtemps. Moi, je ne savais pas que dans l'arrière-plan, ça négociait entre les assurances puis le contracteur pour arriver à un contrat. Il n'y avait même pas de contrat. On n'aime pas ça, attendre. On veut que les choses soient immédiates, surtout dans la société qu'on vit aujourd'hui. Là, tu écoutes un chant à la radio, puis tu l'aimes beaucoup, puis tu peux aller sur ton téléphone, puis tu peux le faire venir, même télécharger pour 99 cents le temps que tu roules sur le chemin. Mais fais pas ça, là. Pas au volant. Mais c'est comme la société dans laquelle on vit aujourd'hui, c'est tout ce qui est instantané. On le reçoit tout de suite. Puis là, dans notre vie chrétienne, le Seigneur nous dit, « Hey, soyez patient. Ça fait partie de votre foi. On est en train de développer quelque chose. » La miséricorde et la patience de Dieu pour ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur fait encore une œuvre jusqu'au moment que le dernier rentre dans le royaume, sous l'âge de grâce, sous l'Église. Et à un moment donné, ça va être fait, pouf, il va revenir. N'oublions pas que Dieu accomplit tout ce qu'il a promis. Il va le faire. C'est sûr et certain. Je sais que des fois, on aurait peut-être un petit doute. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi tends-tu? Pourquoi que ça prend si longtemps? C'était l'accusation, même dans le temps, du Seigneur. De ceux qui faisaient la plainte dans les églises. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, il dit, ben, est-ce que Dieu il a comme oublié? Non, il n'a pas oublié. Comme l'attente du Messie et comme pour nous, l'Église, sauvée par le sang précieux du Seigneur qu'on s'est rappelé ce matin dans le repas du Seigneur, c'est central. C'est la chose la plus importante, c'est comme le point tournant de toute l'histoire de l'humanité. La vie humaine, là, c'était comme sur une droite, et tout à coup, les choses changent. Christ vient, Christ va à la croix, l'Église naît. Il va changer encore. Il y a un autre moment qui est le point tournant de l'histoire de l'humanité. Et c'est la deuxième venue du Seigneur. Nous, l'Église, on va être déjà partis au ciel. On va revenir avec lui pour sa glorieuse retour, son glorieux retour, va faire partie de ceux qui vont l'accompagner. Il revient. C'est central. C'est la chose la plus importante dans toute l'histoire de l'humanité. Tu sais, on pourrait demander, faire un sondage sur la rue pour dire, bien, c'est quoi l'événement le plus important de l'histoire de l'homme? Puis il y en a certains qui vont peut-être dire, bien, en 1969, on a mis un homme sur la Lune. Oui, c'est un point important. Il y a le 11 septembre, avec l'écrasement des deux tours à New York. C'est un point tournant dans notre histoire, l'assassination de Kennedy, etc. Là, il y a plein de choses dans lesquelles on a des points de repère où est-ce qu'on se rappelle exactement qu'est-ce qu'on faisait, où est-ce qu'on était lorsque c'est arrivé. Et pour le chrétien, là, il y a une chose qui est notre point de repère, la chose qu'on sait qu'on s'est attaché. Et c'était la belle pensée que Christ est venu mourir pour nous et puis il a fait de moi son enfant. Dieu vient quand Israël soupirait après lui. C'est le travail de l'Église de donner à la population qui nous entoure une soif, un espoir à la personne de notre grand Dieu. C'est ça qu'on est appelé à faire. Si on ne leur dit pas, bien, comment ils vont le savoir? Le Seigneur nous appelle à être les ambassadeurs du temps moderne, comme Jean-Baptiste était l'ambassadeur pour la venue du Messie. Mais c'est nous les Jean-Baptiste de ce temps ici, là. On est nombreux. Si le Seigneur mettrait à cœur chaque personne ici de parler à quelqu'un du Seigneur, et cette personne-là déciderait de voir que Christ soit leur sauveur personnel. Si on compte le nombre de personnes ici, combien de plus de personnes qu'il va avoir avec nous au ciel un jour? C'est ça le Seigneur nous appelle à faire. Donc, sortons de notre pensée qu'il faut juste patienter pour le retour du Seigneur. Oui, il faut être patient pour ça, c'est notre glorieuse espérance. Mais entre-temps, il ne faut pas juste rester debout puis à regarder, à rien faire. Oui, on regarde, mais tout en travaillant. C'est ça le Seigneur nous appelle à faire. Prions. Merci Seigneur de ta fidélité. C'est sûr pour les générations qui ont connu ton silence pendant ces 400 ans-là, Seigneur, dans tout le vécu de leur vie, ils n'ont jamais entendu aucun message, ils n'ont jamais eu de prophète, ils n'ont jamais entendu parler de toi dans le sens qu'il y avait juste l'histoire, il n'y avait rien de nouveau. Ça aurait été dur. Seigneur, nous, on a cette belle avantage qu'on a entre nos mains, ta parole est toujours là, elle est vivante. On a le droit de le lire quand on veut, aussi souvent qu'on veut, pour le temps qu'on veut. Seigneur, on doit avouer que souvent, c'est pas vraiment une priorité. Aide-nous aussi, Seigneur, de nous rappeler qu'on peut te parler en tout temps, en tout lieu. Tu nous écoutes. Tu t'endors jamais. Seigneur, tu veux entendre nos cœurs. Et Seigneur, on sait aussi que tu nous demandes, Seigneur, de partager l'espérance qu'on a en toi. Merci, Seigneur, de nous témoigner dans ta parole toute l'histoire sainte qui nous est donnée, et puis de préparer justement nos cœurs pour entrer dans ce temps de Noël, bien motivé, Seigneur, pour partager Christ avec quelqu'un. Parce que le Messie qui était promis est déjà venu. Et en lui, on peut être sauvé. Accepte de nos actions de grâce, Seigneur, et va devant nous dans la semaine qui est devant nous. On t'en remercie dans le beau nom du Seigneur Jésus. Amen. S'il vous plaît, si on peut rester quelques minutes, on va juste demander au peut-être quelqu'un pour aller cogner pour dire au prof qu'on a fini. Puis même si les enfants veulent rester, continuer à travailler, les profs peuvent venir se joindre à nous pour